Vous écoutez Les Chroniques de l'Andalou, un balado qui raconte la jeunesse d'un Andalou irrévérencieux dans l'Espagne post-franquiste des années 80.
L'Andalou, la colonie de vacances. C'était décidé. Ma punition serait que je ne passerais pas les vacances d'été avec mes parents. Tout ça à cause d'une bagarre pendant un match de foot improvisé avec des Catalans. Los Tacaños, ou les Radins, comme on les appelle chez nous, étaient en vacances dans la région. Ils nous ont interpellés au loin en nous voyant moi et mes amis jouer au foot. Le plus grand de leur groupe de 8 nous a lancé en s'approchant. « Allez les petits, on va vous montrer comment jouer au foot, nous. » Les petits, ils nous avaient traités de petits. On n'insulte pas un Andalou. Et on ne remet encore moins en question sa connaissance du football. Il faut savoir qu'en Espagne, ce sport est culturellement un débat de société. On s'est donc mis en position et le match a commencé. Mais comme dans tout match, le premier accrochage est vite arrivé. Car les Catalans avaient inventé une faute de main. Les arguments techniques, concernant les règles du football, ont vite laissé place aux insultes, qui, elles, ont laissé place aux coups sur la gueule. Après un échange de coups assez corsé, la bagarre s'est essoufflée et les Catalans sont enfin partis. C'est seulement après leur départ qu'on a constaté qu'ils nous avaient volé notre ballon. Los ladrones, les sales voleurs. Mais c'est plus tard, en se promenant en ville, qu'on a vu l'acte d'insulte impardonnable qu'ils avaient posé. Ils avaient dessiné un graffiti sur la statue des frères Pinzón. Qui étaient les frères Pinzón? L'histoire se rappelle d'eux comme des navigateurs et explorateurs espagnols, qui avaient accompagné Christophe Colomb dans sa découverte des Amériques. Ses frères étaient la fierté historique de Palo de la Frontera et du reste de la péninsule ibérique. Il nous était donc inutile de chercher de midi à 14h qui étaient les salauds de coupables. Car le graffiti disait « Carayots », qui en catalan voulait dire « gros débile ». Comme je suis à moitié catalan, je n'ai normalement rien contre eux. Je pourrais même ajouter que les relations entre la Catalogne et l'Andalousie se sont toujours mieux portées qu'avec Madrid. De plus, les deux régions ont souvent été liées historiquement. Dans les années 60 et 70, de nombreux Andalous ont massivement immigré en Catalogne pour y travailler, afin d'éviter de s'exiler en France ou en Belgique. Mais ce jour-là, la bagarre, le vol de ballon et le vandalisme a rapidement dégénéré en clash ibérique. D'ailleurs, ce style d'escalade et de représailles est assez fréquent chez nous. Deux de mes amis d'enfance, Jaime et David, qui étaient les descendants directs des frères Pinzón, en ont fait encore plus une affaire personnelle. Après une recherche active dans la ville, on a réussi à trouver où résidaient les Catalans pendant leurs vacances. C'était parfait. On souhaitait seulement qu'ils restent encore dans la région le temps qu'on organise une expédition punitive. Quelques heures plus tard, notre petit groupe avait pris du galon, car d'autres jeunes de Palo de la Frontera avaient répondu à notre appel de vengeance. On a alors attendu les Catalans à la sortie de leur camping, en se cachant derrière des arbustes. Puis, on les a ensuite suivis de loin, sans qu'ils s'en rendent compte. Le travail de filature et de fomentation pour organiser notre vengeance était un bon divertissement pour des jeunes en vacances, qui n'avaient rien à faire de spécial de leur temps. Ce jour-là, les Catalans s'étaient déplacés en vélo pour aller se baigner à une plage sauvage. En général, cette plage est quasi déserte. Comme elle se trouve à flanc de falaise et que l'accès en voiture est impossible, il ne faut pas avoir peur d'emprunter à pied des chemins escarpés. On a attendu qu'ils descendent jusqu'à la plage après avoir laissé leur vélo sur le haut de la falaise. Ils avaient pris la peine de tous les attacher ensemble avec leur cadenas. On s'est regardé et on a convenu de prendre les vélos et de les jeter en offrande à la mer Méditerranée. Discrètement mais rapidement, on s'est emparé des vélos pour les soulever. Ils semblaient emmêlés, car leurs roues avaient été attachées les unes aux autres de manière compliquée. On s'est déplacé quelques mètres plus loin afin de trouver un flanc de falaise parfait qui s'ouvrait à la mer. Les Catalans nous ont alors surpris et ont commencé à pousser des cris et à courir comme des affolés en tentant de remonter le chemin qu'ils avaient emprunté. Mais il était déjà trop tard. On avait déjà balancé à bout de bras les vélos qui avaient entamé leur descente rapide vers les vagues. Ils se sont d'abord fracassés sur les rochers pour ensuite disparaître dans les flots. S'entraîner, on a pris la fuite sur nos propres vélos. Et en guise de courtoisie, on leur a tous lancé notre typique cortes de manga espagnol, soit un bras d'honneur. Cela aurait pu se terminer là, n'est-ce pas? Mais non, puisque les Catalans ont appelé la police en leur donnant notre description. De plus, c'était assez simple de remonter jusqu'à une bande de gamins d'une dizaine d'années en vélo qui hurlaient Et que viva Palos de la Frontera! Quand je suis revenu chez moi, j'ai aperçu une voiture de police qui m'y attendait. Deux agents discutaient avec mes parents, qui eux avaient les bras croisés. Je savais que j'étais dans la merde jusqu'au cou. Et je savais également que j'allais me faire punir. Mais pas une punition de ce niveau. Mes parents étaient le genre de personnes très strictes lorsqu'il était question de bagarre. Mais encore plus lorsque la police s'en mêlait. Leur regard noir annonçait clairement qu'une catastrophe se dessinait pour moi. Ma mère m'a ordonné de m'approcher en pointant son index à ses pieds, en me balançant au passage des réprimandes en me harcelant de questions.
« Viens ici, toi ! C'est toi qui as frappé ces gens et jeté leur vélo à la mer ? Et ne mens pas, on sait que c'est toi avec les autres !»
J'ai tenté d'expliquer la raison de notre vengeance, mais ils ont volé notre ballon.
« Tais-toi et arrête de mentir !»
Il était inutile de chercher à me justifier ou d'inventer sur le vif une raison bidon. De toute façon, peu importe la justification que je lui donnerais, les faits étaient contre moi. Pourtant, ces réprimandes ne me troublaient pas et ne m'affectaient pas non plus. En fait, je trouvais ça plutôt drôle, car elle semblait se retenir de déverser sa rage, étant donné le grand nombre de témoins autour de nous. Mon père, lui, ne disait rien, et je voyais clairement que son regard affichait maintenant un puissant désir de m'arracher la tête et de me jeter à mon tour à la mer. Mais heureusement, je devais encore ma sécurité à la présence de la justice. Je voulais que leur discussion s'éternise afin de garantir l'intégrité de ma vie le plus longtemps possible. Les policiers me regardaient avec un regard autoritaire, mais avec quand même une pointe de pitié, car ils semblaient comprendre ce qui m'attendait. Ils ont expliqué à mes parents que finalement il n'y aurait pas de plainte de la part des pauvres Catalans, qui avaient été attaqués par une horde de jeunes Andalous assoiffés de sang. Ces ordures de Catalans réclamaient simplement qu'on leur rembourse le prix des vélos. Cependant, les policiers ont fait comprendre à mes parents qu'ils devaient mettre une note à mon dossier pour trouble sur la voie publique et que la prochaine fois, ils ne seraient pas aussi cléments. Mon père a alors décidé de payer la totalité des vélos. Il a remis l'argent aux agents en leur expliquant qu'il allait prendre la peine d'aviser les autres parents pour leur dire que l'affaire était réglée. Les policiers ont bien sûr accepté et ont pris l'argent en empochant au passage un petit bonus pour également ne pas mettre la soi-disant note à mon dossier. Mais oui, on était bien dans l'Espagne des années 80. Je savais pourquoi mon père avait sorti aussi rapidement son portefeuille. Il voulait régler au plus vite le problème, afin que cesse le spectacle qui attirait les regards curieux de nos voisins, qui s'agglutinaient à leurs portes et fenêtres. Et surtout, il souhaitait rapidement rentrer dans la maison, histoire de laver notre linge sale en famille. Depuis sa fenêtre, l'une de nos voisines a eu la mauvaise idée de demander à ma mère ce qui se passait.
« Maria, c'est quoi qui se passe encore avec la police ?»
Sur quoi ma mère a répondu
« Rien qui te concerne, bonne journée !»
Une fois les policiers partis, mon père m'a attrapé par le col en me secouant pour me jeter à l'intérieur de la maison. J'ai été immédiatement expédié vers ma chambre, tout en entendant mes parents se chamailler au sujet de mon châtiment. Enfermé dans ma chambre, je les entendais débattre, car ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Au bout de plusieurs longues minutes, j'ai entendu des pas rapides dans le corridor. Puis, j'ai vu ma porte s'ouvrir avec puissance. Tellement fort, en fait, que je pensais qu'elle allait s'arracher. Mon père est apparu avec son regard furieux. J'ai eu droit à un déversement de réprimandes qu'il me crie au visage. Mais que je n'écoutais pas vraiment, en fait. L'habitude, je dirais. Je le regardais en l'imaginant parler en mode accéléré, en espérant arriver à quelque chose d'intéressant. Puisque je m'étais comporté en sauvage, et que c'était assez fréquent ces derniers temps, je devais être sérieusement puni. En fait, je le savais bien. Il avait encore passé une mauvaise journée au travail, et cette bagarre, ainsi que les vélos jetés à la mer, était encore une fois l'exutoire parfait pour laisser passer sa colère. Mon attitude de je m'en foutisme confronté à sa mauvaise humeur habituelle avait aggravé mon cas. Par conséquent, leur sentence était claire. Je ne partirais pas en vacances d'été avec eux. En postillonnant, mon père hurlait.
Plus de vacances pour toi, tu vas rester ici pour toutes les vacances, jusqu'à que tu pourrisses d'ennui.
Je regardais ces postillons tomber sur le sol de ma chambre. Mais je devais avouer que je n'étais pas nécessairement heureux d'apprendre cette nouvelle. Surtout à cause du programme des vacances. En fait, on devait partir dans les îles grecques avec certaines personnes de la famille. Moi qui voulais passer mon temps à faire de la plongée en apnée dans les beaux sites de la mer d'Égée. Bah, après tout, je me disais que cela me ferait prendre des vacances de ne pas voir mes parents et ainsi que mes imbéciles de cousines durant 3 semaines. Et donc un mal pour un bien, puisque je passerai du bon temps avec mes grands-parents à Barcelone. Mais c'était sans penser que ma mère avait prévu d'autres détails pour affiner ma punition. C'est toutefois que le lendemain matin au petit déjeuner que j'ai su ce qui allait m'arriver. Mes parents, assis en face de moi à la table de cuisine, tel un tribunal qui avait réfléchi à ma sentence, m'ont annoncé où j'allais devoir passer les 3 semaines suivantes. En colonie de vacances. En colonie de vacances, non, pas ça! Les colonies de vacances, il n'y avait que les crétins qui aimaient ça. Déjà que dans la vie, je faisais tout pour me préserver des cons. Là, j'allais passer mes vacances avec des gens que je fuyais en temps normal. J'allais être l'otage pendant quasiment 1 mois de ces camps estivaux où l'on chante en boucle des chansons qui donnent envie de s'enduire d'essence et de craquer une allumette. Un endroit où on vous impose des balades inutiles en forêt durant des heures et où on confectionne des bricolages en bois pour débiles. Bref, j'allais être coincé dans un lieu où j'allais subir des activités sans jamais pouvoir faire quelque chose qui me plairait. D'ailleurs, le principe des colonies de vacances est de ne rien apprendre d'utile. Et que dire du ramassis d'enfants qui n'ont pas envie d'être là et dont les parents se débarrassaient pour diverses raisons? Et quand vous mélangez des enfants qui n'ont pas envie d'être ensemble, l'ambiance devient digne d'un pénitencier. Le seul point positif est que les rencontres y sont éphémères. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé devant la mairie de la ville avec tous les autres enfants qui allaient embarquer dans les autobus qui nous amèneraient vers les différents camps de supplice où on était inscrits. J'étais entouré d'une multitude de jeunes de tous âges. Étonnamment, certains d'entre eux semblaient vraiment contents de partir. Je les regardais avec un regard de dégoût se taper dans les mains, tandis que d'autres pleuraient en serrant leurs parents contre eux. Je me brûlais de l'intérieur, je voulais disparaître, je ne voulais plus être là. Mais bon, comme me disait souvent ma grand-mère, « Fils, il faut toujours que tu acceptes les conséquences de tes actes. » On devait alors s'enregistrer auprès d'une monitrice qui tenait une liste en main. C'était une fille qui devait avoir 18 ans et qui s'était trouvé ce travail d'été pour payer ses études. Elle portait un t-shirt où était inscrit « Les vacances sympas ». Et je voyais que d'autres enfants en revêtaient déjà un semblable avec le sourire. J'en ai bien sûr reçu un, mais je me suis promis que je ne le porterai jamais. La monitrice a cherché mon nom sur la liste et m'a informé du numéro du bus où je devais embarquer, et m'a dit de remettre ma valise au chauffeur. Ma valise? Mais quelle valise? Mon père, qui était à mes côtés, a voulu m'étrangler sur place quand il s'est aperçu que je ne l'avais jamais chargé dans le coffre de la voiture en partant de la maison. Ma mère, elle, ne s'est pas gênée pour m'engueuler devant tout le monde, et elle m'a hurlé que j'allais y aller que je le veuille ou non. Et elle avait, hélas, raison, puisqu'on est retourné chercher ma valise à la maison. Malgré ma tentative de sabotage, au lieu de me retrouver dans le bus, c'est finalement en voiture qu'on m'a amené de force à la colonie de vacances. À suivre.